Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester.
Le pasteur allemand, Martin Niemöller, a survécu au camp de concentration nazi. Ce sermon, il l'a prononcé devant une communauté protestante à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Charles Zelti avait 15 ans lorsqu'il a rejoint un groupe de résistants communistes juifs en août 1942 à Lyon. Arrêté le 7 mars 1944, après avoir transité par Drancy, il arrive avec le convoi numéro 70 à Auschwitz.
Il sera libéré à Bergen-Belsen en avril 1945. Il n'a cessé depuis de témoigner pour expliquer comment ce cauchemar collectif a été rendu possible et ce qu'il a été. Quand il reprend les mots du pasteur Niemöller, c'est bien pour pousser à la vigilance permanente, pour crier. Plus jamais ça. Mais le cri ne suffit pas, il faut expliquer, faire comprendre.
C'est ce qu'il a fait avec nous à Auschwitz, par une belle et douce journée de printemps, d'un bleu limpide, où entre ses commentaires, ceux d'Alban Perrin venu du mémorial de la Shoah, ceux de Teresa, notre guide polonaise, il n'y avait place que pour de lourds silences, perturbés par le léger gazouillis des oiseaux. Et pourtant...
Dans la première de ces deux émissions consacrées à la Shoah en Sarthe, nous avons pu écouter des témoins raconter ce qu'ils avaient vécu dans ce département dans la période de la guerre. Henri Jonovici et Wolf Sokolowski, enfants juifs réfugiés, ont échappé aux rafles en bénéficiant des protections de famille de la campagne sartoise. Presque tous les membres de leur famille ont été arrêtés et ont disparu à Auschwitz.
Madame Mauboussin nous a raconté comment sa famille participait au transfert d'enfants juifs de Paris vers la Sarthe pour les protéger. Plus de 20 familles sartoises ont reçu le titre de « Juste parmi les nations », décerné par Yad Vashem, mais il faudrait aussi rendre hommage à toutes les personnes qui ont, par leur solidarité ou leur silence, permis de sauver ces familles et enfants juifs.
Tous les témoignages sont importants, mais quelqu'un a choisi le roman pour évoquer cette période en Sarthe. Le choix de cette forme de témoignage a aiguisé notre curiosité.
Josette Alia est née à La Ferté-Bernard, dans une famille d'instituteurs républicains. La journaliste était adolescente pendant la guerre. Après des études secondaires au Mans, elle a rejoint l'Institut d'études politiques de Paris. Elle anime des émissions féminines sur Radio Tunis, puis crée le premier journal féminin tunisien. Dans les années 60, elle collabore à Jeune Afrique, au Nouvel Observateur et est correspondante du Monde à Tunis.
En mai 67, elle couvre la guerre des six jours et devient l'un des grands reporters spécialistes des questions du Proche-Orient.
J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas humble chapelle, toi qui me remures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie, ma
pleure son ombre, sa tendre épouse, son amie qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer, ô Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Femmes tombent sous l'orage, demain le sang sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'âmes. Inch'Allah, 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 Inch'Allah.
Dans les années 70, elle devient rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire et est saluée par le prix de la meilleure journaliste en 1980. Elle devient en 2006 présidente du prix Albert Londres. Après avoir publié de nombreux ouvrages, elle publie en 2005 un roman Le Pensionnat.
Elle y raconte la vie de Lucie qui prend la direction d'une école à Montfort-le-Génois, dans la Sarthe, après la mobilisation de son mari sur le front. Elle accueille des enfants juifs parisiens. Josette Alia décrit l'exode, les réquisitions, les précautions qu'il faut prendre pour protéger les enfants. Une belle histoire qui permet de voir le rôle des femmes pendant la guerre et le quotidien d'un bourg rural à cette époque. Nous avons rencontré Josette Alia.
Vous dites dans le prologue du livre que, donc là je vous cite, que ce livre ne sera pas son histoire à Lucie, mais un roman, celui d'une femme qui traversa d'un pied léger une époque tragique. Est-ce que cette phrase veut dire que vous auriez pu écrire l'histoire de n'importe quelle autre femme et dans un autre lieu ?
Non, bien sûr. Là, mon but, mon objectif, mon désir, c'était d'écrire l'histoire de quelqu'un que je connaissais, qui était ma mère. Voilà, comment elle avait vécu pendant la guerre. Et j'explique plus loin qu'elle avait laissé quelques notes et que j'avais quelques souvenirs d'enfance de cette époque. Et au fond, j'aurais pu le situer n'importe où, mais autant le situer là où ça s'était passé, parce que ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'était d'essayer, je dis bien essayer, de restituer l'atmosphère, le vécu, pendant qu'il y avait encore des gens qui avaient vécu ça, d'une petite ville, française, dans la Sarthe ou ailleurs. Ça aurait pu être dans n'importe quel autre département, ça aurait pu être la Mayenne, l'Orne, tout ça. C'était, je veux dire, d'une petite ville qui, à l'époque, était loin, vraiment loin de Paris. C'était pas du tout comme maintenant. Donc, d'une petite ville française pendant la guerre et l'occupation, une partie de l'occupation, voilà.
Donc, pourquoi, pour une journaliste, choisir plutôt le roman qu'un essai ou un ouvrage de témoignage ou d'histoire ?
Eh bien, parce qu'en tant que journaliste, je ne fais que ça, le témoignage et l'histoire. Je ne suis pas historien. Il faut quand même faire un petit peu de sémantique. L'histoire, c'est précis. Ça s'appuie sur des documents. C'est des recherches. On sait exactement, c'est daté. On sait le nom des gens. Bon, ça, c'est le contraire du roman. Enfin, ça, en tout cas, ce que j'ai voulu faire, c'était pas de l'histoire. Ça, des gens l'ont fait, l'histoire de la guerre. Il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont fait, et fait très bien. Bon. Moi, c'est pas ça que je voulais faire. Et d'ailleurs, c'est poser des moyens énormes et du temps. Non, et puis c'était pas mon intention. Mais j'ai quand même lu tous les livres qui ont été écrits sur cette période par des historiens. Le roman, pourquoi ? Peut-être parce que, comme journaliste, je passe mon temps à écrire des choses précises que j'ai vues, des gens que j'entends, je suis sûre des faits, je les confirme, etc. Je fais un travail de témoignage sur le terrain, puisque je suis grand reporter. Je vais pas inventer des personnages. Quand j'écris que j'ai rencontré Monsieur X à tel endroit, c'est vrai, dans mon journal. J'avais envie de faire autre chose. Voilà, on peut changer. Et je trouvais que le roman, entre nous, ça offrait beaucoup plus de possibilités. Je l'ai découvert en faisant mon premier roman sur Quand le soleil était chaud, sur 15 années, 20 années de reportage où j'avais écrit des choses très précises. Je me rendais compte que malgré tout, ce qui manquait, c'était... Il y avait tous les faits, il y avait mes interprétations. Mais ce qui manquait, c'était le vécu quotidien des gens que j'allais interviewer. C'était de savoir comment ils avaient vécu telle guerre, par exemple la guerre du Liban. Bon, comment ils avaient réagi, l'impact sur leur vie personnelle. Tout ça, ça rentre pas dans les articles de journalistes. On n'a pas à se mêler de la vie privée des gens qu'on va interviewer. Mais enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je parle pas du dernier livre sur le pensionnat, je parle de mon précédent livre qui était sur le Moyen-Orient, qui s'appelle « Quand le soleil était chaud ». Et là, brusquement un jour, je me suis dit, il n'y a que le roman qui peut restituer ça. Parce qu'au-delà de la vérité immédiate, il y a des arrière-plans qui sont forcément émotionnels, qui ne rentrent ni dans le travail du journaliste, ni dans le travail de l'historien. Donc, au jour, j'ai commencé à avoir l'idée qu'il fallait peut-être compléter de temps en temps le travail de journaliste par un travail romanesque. Et j'ai repris cette idée pour le pensionnat. Parce que, effectivement, faire un travail d'historien sur une petite ville française pendant la guerre et l'occupation, ça a déjà été fait. En revanche, ce qui me paraissait pour moi plus important, c'était d'essayer, puisque j'avais encore des témoins directs, c'est que maintenant il n'y en a plus, très peu, des témoins directs de 39-40, vous savez, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Tout le monde a vieilli ou a disparu. Donc, de faire quelque chose qui essayait d'évoquer le climat, l'atmosphère, les nuances aussi, pour ne pas avoir de cette période, qui a été une période quand même très bouleversée, très bouleversante, très importante dans l'histoire de la France et dans le vécu des gens qui sont passés à travers.
Quels souvenirs ont guidé la décision d'écriture et l'écriture du roman ?
D'abord, le roman, c'est pas que des souvenirs. Autrement, ça s'appellerait des mémoires et ce serait précis. Le roman, c'est le souvenir plus une certaine image, plus des émotions qu'on a éprouvées ou qu'en interrogeant les gens, on a deviné à travers eux. Les souvenirs, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que moi j'ai des souvenirs d'enfance. À 8 ans, se retrouver sur les routes de l'Exode dans la France de 1939-1940, c'était quelque chose d'absolument jamais vu. Pas seulement pour une petite fille de 8 ans, mais pour les adultes. C'était une période, je crois que ça s'est effacé depuis, mais ça reste quand même très important pour toute une génération. Si vous avez vos parents ou vos grands-parents, vous les interrogez là-dessus. Alors, le plus étonnant, c'était qu'ils en parlaient peu. Tout de suite après, j'avais pas beaucoup de gens qui m'en parlaient. Ou peut-être pour toutes sortes de raisons qu'on peut imaginer. Ça les embêtait, ça les gênait, c'était l'occupation, etc. On n'a pas parlé de l'occupation en France pendant longtemps. En tout cas, on n'en a pas parlé à cœur ouvert. disons. Hein, il a fallu attendre, je crois, au moins 20 ans, je ne sais pas, pour qu'on commence à voir des films, des écrits qui soient un peu plus nuancés, parce que vous savez bien que l'histoire de la France, vous la connaissez quand même. Donc, après la guerre, il y avait une tendance à dire que toute la France avait été résistante. 10 ans après, 15 ans après, il y a une autre tendance qui était, par exemple, les films de Sédoui qui ont été à contre-pied pour dire que c'était pas vrai, il y avait eu beaucoup de collaborateurs, etc. Je crois que après 40 ans, après 50 ans, au moment où les archives s'ouvrent, et c'est pas par hasard que les archives restent fermées, et je crois que c'est une bonne chose, au moment où les archives s'ouvrent, c'est-à-dire 50 ans après pour la guerre et 30 ans après pour les périodes qui ne sont pas la guerre, on commence à pouvoir mesurer un peu et à avoir des témoignages qui sont plus sous l'empire des sentiments du moment. Alors, voilà. Si vous me parlez des souvenirs, bien sûr, j'ai des souvenirs directs. Je vous dis, ma mère avait laissé des notes. C'était pour elle-même. C'était des notes, des photos. Mon père avait laissé quelques lettres. Il était sur le front pendant la guerre. Et moi, j'avais mes souvenirs d'enfant. Mais enfin, j'ai complété ça. Ça faisait un peu hétéroclite. J'ai complété ça et c'est le roman qui permet de compléter, justement. On peut créer des personnages, on peut on crée des personnages, forcément, qui ne sont pas réels. Ça, je vois d'après vos questions que pour vous, le roman, c'est quelque chose de réel. Non, le romanesque, ce n'est pas réel. C'est quelque chose qui part du réel, parce qu'on ne peut pas inventer à partir de rien, mais ce n'est pas réel dans la mesure où ça s'incarne dans des personnages. Et j'ai écrit plusieurs romans, j'ai écrit 3. Je vous assure que quand on a inventé un personnage et qu'on a une longue histoire à raconter, par exemple, j'ai inventé toute une famille, une saga, dans Le soleil était chaud, eh bien, les personnages finissent par agir tout seuls. Ça paraît bizarre, mais disons qu'il y a une logique. Vous avez trouvé un personnage, c'est bien sûr que ça se réfère à une réalité. Ça ne vous tombe pas du ciel comme ça. Et vous avez trouvé un personnage, il a sa propre logique, vous lui faites faire ceci, cela, et après, ça se développe un peu tout seul. Voilà, il faut essayer pour le voir, pour le comprendre. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement. Donc, il y a les souvenirs. Et puis il y a le côté créatif du roman qui est très satisfaisant et très angoissant. Et c'est beaucoup plus difficile d'écrire un roman que d'écrire des articles, même si on en a écrit des centaines comme moi. Et puis il y a après une espèce de construction qui se fait d'elle-même. Voilà la place des souvenirs, puisque je pense que c'est ça votre question.
Avez-vous une volonté, une démonstration à faire et quel lecteur visiez-vous ?
Écoutez, je vous dis quelle est ma volonté, c'était pas une démonstration à faire. C'était exactement le contraire. Je veux rien démontrer. C'est pas un livre politique. Si je fais un livre politique, si je fais un livre engagé, je veux démontrer quelque chose. Bon, parce que, mais là, c'est pas le cas. Je n'ai rien à démontrer, si vous voulez. J'ai simplement à constater, ou à relater, ou à essayer d'expliquer ce que moi, je crois être la réalité, le vécu des gens et la réalité à un moment donné. C'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est plus difficile, je crois, d'être... Il faut être nuancé, il faut être à l'écoute des gens, il faut essayer de trouver les mots, ce qui n'est pas simple non plus. Et puis on peut se tromper, bien sûr. Mais démontrer, non. J'ai vraiment rien à démontrer. Je n'avais rien à démontrer. Si vous prenez le sens du mot, démontrer d'une manière précise. Si vous voulez dire témoigner, ce qui est quand même autre chose. Moi, je tiens beaucoup aux mots, parce que c'est quand même pas du tout la même chose, un mot ou un autre. Si vous voulez dire témoigner, oui. J'ai pas voulu démontrer, mais je voulais témoigner de quelque chose que j'avais vécu, que j'avais vraiment connu, que les gens autour de moi avaient vécu. Voilà. C'est plus un témoignage, pas qu'une démonstration, c'est pas le cas du tout.
Était-ce l'occasion de dépeindre une société de bourg rural de cette époque ?
Oui, oui, bien sûr. C'était... une petite ville de province en France, qui aurait pu être n'importe où, mais qui était là où je l'ai mise, c'est-à-dire dans la Sarthe, ça c'est clair. Et c'était une société, c'était bien sûr, c'était ça l'idée, avec le fait que j'ai pu, évidemment, on peut me dire, mais c'était pas comme ça, c'était autrement. Chacun a sa vision subjective. Hein. C'était ma vision absolument subjective. Je vous dis, ce n'est pas un travail de journaliste, c'est le contraire. Parce que le journalisme et le roman, ou les mémoires et le roman, ou l'histoire et le roman, pratiquement c'est l'inverse.
Vous dépeignez aussi un monde qui s'effondre, l'armée française et les routes de l'Exode. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Lucie pleure quand les Allemands aide à faire avancer la Peugeot pendant l'Exode?
Ben Lucie, elle pleure tout le temps, enfin elle pleure souvent. Ça, moi je ne me souviens pas d'une manière exacte, mais enfin, vous savez, c'était une période qui était très difficile. C'est une jeune femme, je ne vous dis pas que c'est ma mère exactement, quoiqu'il y a beaucoup de côtés qui lui ressemblent, mais enfin bon, c'est une jeune femme qui n'a pas été préparée du tout à ça, avoir 30 ans, je crois qu'elle devait avoir 30, 35 ans, quoi. Pendant les années 40, 39-40, une jeune femme, elle connaissait rien de la politique, ça se faisait pas du tout. Enfin, les femmes avaient un statut qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Ça, il faut essayer, c'est difficile pour vous parce que vous êtes jeune, mais bien sûr que ça lui est tombé dessus. Et pendant, je dois dire, elle pleure ou elle pleure pas, c'est un détail hein, quand même, je pense. Et puis j'étais pas dans sa peau à cette époque, c'est pas moi qui étais dans la voiture, c'était mon personnage. Mais je crois que d'ailleurs que les femmes, je le dis quelque part, enfin j'essaie de le montrer, pendant la guerre, quand les hommes étaient à la guerre, hein, pendant cette guerre de 39-40, qui a été quelque chose qui est très mal connu, et qui a été finalement, qui a tué beaucoup plus qu'on ne croit. Il y a eu beaucoup de morts dans l'armée française, pas seulement l'Exode. Il y a eu 90 000 morts pendant la guerre de 39. Je crois qu'on l'a jamais dit, parce que ça s'est terminé par une défaite épouvantable qu'on n'avait même pas imaginée. Et bien, pendant tout, et puis ensuite, il y a eu des millions de prisonniers. Donc, il n'y a pas eu d'hommes pendant, disons, 4 ans. 5 ans, les gens sont rentrés en 45. Les hommes étaient ou morts, ou pas là, ou prisonniers, ou à l'étranger. Et au fond, les femmes, à ce moment-là, ont pris un essor, ont assumé, à la campagne notamment, je vous parle de la campagne, mais c'était vrai dans les usines aussi. Les femmes faisaient tourner les usines, les femmes ont assumé les travaux auxquels n'auraient jamais pensé. Et je crois que ça a été un démarrage formidable pour, je ne dirais pas le féminisme, parce que c'est quelque chose dont on n'avait aucune idée à l'époque. Hein. Mais enfin, disons qu'elles ont tenu le coup. C'est elles qui ont fait les travaux des champs, c'est elles qui ont assumé l'éducation des enfants. Ça a été pas seulement en France, dans d'autres pays aussi. En Amérique, par exemple, où ils ont fait tourner, pendant que c'était la guerre, ou en Angleterre encore plus, ils ont fait tourner les usines. Donc les femmes ont assumé des tâches auxquelles elles n'étaient pas préparées, elles l'ont fait bien. Simplement, après la guerre, ça n'a pas été très reconnu. Disons, ça avait été la même chose en 14-18. Hein, et puis après, 14-18, elles sont rentrées à la maison, et puis voilà, basta. Mais là, elles ont pas voulu. Il y en a qui, quand même, mais c'était dans la résistance. Les femmes étaient partout. Elles ont fait un travail. Elles ont tenu la maison pendant l'occupation. Et après, ça n'a pas été tellement reconnu. Parce qu'elles ont demandé un rôle politique. Elles n'ont pas eu droit de vote. Bien plus tard, on a proposé à De Gaulle en 1945 de mettre une femme comme secrétaire d'État ou quelque chose comme ça, une grande résistance. Une grande résistante, il y en avait quand même. On pourrait faire un symbole de ça. Et vous savez ce qu'il a répondu ? Un secrétariat au tricot ?
Y a-t-il vraiment eu des enfants juifs dans l'école de Lucie ou du personnage qui l'a inspiré ?
Oui, ça, bien sûr. Ça, j'aurais pas pu. Mais bien sûr, oui, il y en a eu. J'en ai retrouvé quelques-uns d'ailleurs après. Mais ils souhaitent pas qu'on le. Il y en a eu. C'est ce que j'ai raconté, en gros, parce que c'était pas par hasard. C'était un peu par hasard, je veux dire. C'était parce que après la guerre, au moment de la guerre, au début de la guerre en 39, quand la guerre a été déclarée, en septembre, c'était la rentrée scolaire. En même temps à Paris. Et il y avait à Paris, on craignait les bombardements. On était persuadés qu'il y aurait à l'époque, qu'il y aurait des bombardements sur Paris. Alors on voulait évacuer les enfants. On a évacué les enfants, des enfants qui avaient des familles à la campagne, ils les ont envoyés à la campagne. Et les familles juives qui étaient à Paris, surtout dans le 9e arrondissement, 10e arrondissement, en fait dans le Marais, dans le quartier juif de cette époque et qui est resté, il y avait des familles juives qui venaient d'immigrer, qui avaient déjà fui la Pologne, fui l'Allemagne, et qui arrivaient là, parlant très mal le français, mais qui travaillaient là, parce que simplement la France, après, c'était la mer, et ils pouvaient pas. Il y en a qui venaient de Russie, de Pologne, d'Allemagne, qui fuyaient le nazisme, parce que déjà en 38, il y avait déjà des camps de concentration, en Pologne et en Allemagne, qui commençaient, et ils parlaient très mal français, et ils n'avaient pas du tout de famille. Alors, il se trouve qu'une école qui était, une certaine école, je ne vais pas donner les noms, mais enfin bon, une école qui était dans le quartier du Marais, si vous voulez, de la rue des Rosiers, le 9e arrondissement, les enfants ont été évacués comme d'autres. Mais comme ils n'avaient pas de famille, l'éducation nationale les a répartis entre plusieurs établissements publics. Le collège était un établissement public. Donc, effectivement, ma mère a vu arriver, ça je m'en souviens parce que je les ai vus aussi, a vu arriver un soir un autobus avec des enfants de classe de douzaine d'années, quoi, qui devaient être en quatrième, quelque chose comme ça à l'époque, cinquième, et il y avait un peu tous les âges, et elle les a vus arriver comme ça, comme je le raconte. C'est-à-dire, ils étaient envoyés par l'éducation nationale, dans les collèges de l'éducation nationale pour la durée de la guerre, en principe. On ne savait pas, d'ailleurs, pour la durée de la guerre, tant qu'il y avait un danger de bombardement. Là-dessus est arrivée la défaite, est arrivé l'exode, c'était la pagaille, il n'y avait plus d'éducation nationale, il n'y avait plus personne. C'est vrai qu'elle s'est retrouvée. Les enfants, c'était un internat. C'était des enfants qui étaient tous internes. Enfin, il y a beaucoup d'internes. Alors, les enfants de la région dont les parents étaient là, et les parents sont venus chercher leurs enfants et les ont emmenés, il restait qui ? Ceux qui n'avaient pas de famille. C'est-à-dire les Parisiens, comme on disait. On ne les appelait pas les Juifs, on les appelait les Parisiens. Parce que d'abord, on ne savait pas trop ce que c'était que les Juifs dans la Sarthe, entre nous. Bon, oui, ça paraît bizarre, mais c'était vrai. Et vous savez, c'était loin de tout. Hein. 6 heures de Paris, c'était loin de tout. Donc elle est restée avec ses enfants-là, sur les bras, si j'ose dire, ne sachant pas ce qu'il fallait en faire. Et bien, elle est partie, elle les a emmenés avec eux en exode. Elle n'allait pas les laisser aux Allemands. Mais c'était un réflexe tout à fait normal et naturel. Je crois que beaucoup de gens ont agi comme ça. Il y avait beaucoup de gens. Je sais, ce n'est pas dans le livre, mais je sais par des statistiques, parce que j'ai été voir après les organisations juives pour savoir comment ça se passait. Il y avait quand même des gens qui essayaient de s'organiser pour faire quelque chose dans les organisations juives. Je crois qu'il y a eu beaucoup de dénonciations à Paris. C'est comme ça que les juifs ont été arrêtés pendant la rafle, la grande rafle de 42, etc. Mais en province, là où il y avait des enfants qui étaient dans des fermes, dans des écoles, comme ça, cachés plus ou moins, quoi, mais pas tellement, il n'y a pratiquement pas eu de dénonciation. Il y a pratiquement pas eu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été sauvés par le fait que personne ne les ait dénoncés en France. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a eu énormément de juifs déportés, de juifs français déportés, c'est vrai, des milliers, on le sait, etc. Mais ceux qui ont été épargnés, très souvent, ce sont les enfants qui étaient en province.
Lorsque je rêve en m'endormant, avant que l'aube ne renaisse, au soir d'amour doux et charmant, du joli temps de ma jeunesse, à chaque fois revient bruyer un paysage familier. Un champ d'étoiles pour clocher, quatre maisons, l'une après l'une, jouant dans l'ombre à chat perché. C'est mon village au clair de lune, au-dessus d'elle tout poudreux, le vieux moulin de la commune. Plein de murmures d'amoureux, c'est mon village aux terres de lune. C'est là qu'un soir, bien doucement, derrière un mur, fleurant le grain, j'ai connu mon premier serment et trouvé mon premier chagrin. Aussi de tous mes souvenirs, faits de bonheur ou d'infortune, le plus fidèle à revenir, c'est mon village au clair de lune. C'est là qu'un soir, bien doucement, derrière un mur, fleurant le grain, j'ai connu mon premier serment et trouvé mon premier chagrin. Aussi de tous mes souvenirs, faits de bonheur ou d'infortune, le plus fidèle à revenir. C'est mon village au clair de lune.
Le roman tient sur deux inquiétudes. Comment Lucie, femme à la fois solide et fragile, va-t-elle surmonter les responsabilités de jeune directrice et ses relations sentimentales alors qu'elle attire les hommes comme Philippe et les jeunes gens qu'elle protège, comme Serge?
Oui, vous savez, je crois que la première inquiétude était nettement plus importante que la seconde dans ce cas-là. Parce que, en pleine guerre, avec des problèmes de ravitaillement, de nourrir 150 enfants tous les jours, de trouver, d'avoir les Allemands, parce que c'est vrai que les Allemands ont occupé le collège et l'ISS en même temps que les enfants juifs étaient là. Ça, c'était vraiment une préoccupation plus importante que de savoir si quelqu'un était amoureux d'elle pendant ces... En tout cas, elle n'a jamais manifesté ce genre de souci et je crois que c'était pas tout à fait le sien. Mais oui, bien sûr, c'était difficile, bien sûr. Je dis parce que la situation était déjà très dangereuse en elle-même. L'idée de voir les enfants juifs qui étaient dans les collèges, au moment des vacances, ils restaient tout seuls dans un internat. Les parents venaient chercher leurs vacances de Pâques, les parents venaient chercher leurs enfants, les emmenaient aux vacances de Pâques, comme ça se fait maintenant, ou s'il y a encore des internats, ce que je ne crois pas, mais enfin bon. Mais les enfants juifs, ils n'avaient plus de parents. Et la plupart avaient été arrêtés, déportés. Donc ils étaient là, ils n'en savaient rien d'ailleurs, ils ne savaient pas. Donc ils étaient là seuls. Alors, dans le collège, c'était grand, mais quand même, il y avait toute une aile où il y avait des Allemands qui s'étaient installés, et c'était des SS. Je me souviens très bien du sigle SS. Moi, je suis petite, mais je me rappelle. C'était un risque énorme. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ma mère s'en soit vraiment rendue compte. Parce qu'à l'époque, vous savez, c'est difficile de se remettre 50 ans en arrière. Mais à l'époque, on n'était pas tellement au courant de ce qui se passait dans l'armée allemande, tout ça. C'est quelque chose qui est difficile à admettre, mais personne ne savait qu'il y avait des camps de concentration et que les Juifs étaient dedans. Pendant longtemps, il y avait quelques personnes qui le savaient, mais disons, dans la province française, on n'en savait strictement rien. Ça, on l'a su après la guerre. Alors, est-ce qu'elle mesurait le risque? Probablement pas. Et d'ailleurs, après la guerre, je lui ai dit, tu sais, il y a des gens qui s'appellent les Justes. Après, les organisations juives ont dit que les gens qui avaient protégé les enfants ou des juifs, ce seraient des justes et qu'on allait les honorer, planter des arbres à Jérusalem pour chacun d'eux, etc. Je lui ai dit, tu sais, il y a des justes, comme ça, les gens qu'on... Elle n'était pas contente du tout. Elle m'a dit, comment ça, honorer des gens? Mais quoi? Il n'y avait rien d'autre à faire. Ce n'est même pas du courage. Elle dit, on était obligés, il fallait le faire. C'est drôle parce que le recul nous change un peu notre vision. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, et je connais des paysans qui ont gardé des enfants juifs, j'ai revu des enfants après qui ont gardé un souvenir formidable. On mangeait des rillettes, c'était bon, dans la Sarthe, il n'y avait pas les privations. Il y en a un qui m'a dit, j'ai trouvé un type formidable, qui m'a appris à labourer. Alors, évidemment, bon, petit parisien, appris à labourer, ça l'a marqué bien plus qu'autre chose. Il avait 8 ou 9 ans, ou 10 ans. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, on ne peut pas projeter je ne dirais pas des questions, mais c'est difficile de projeter des questions précises de notre temps sur ce temps-là qui répondait à des conditions, à des critères et complètement différents, à un point qu'on n'imagine pas. C'est le monde a complètement changé en 50 ans et c'est pour ça que moi j'ai voulu essayer de faire quelque chose qui restituait un monde rural qui est disparu, complètement disparu. J'ai pas répondu sur Philippe. Bon, parce que, à mon avis, ça n'avait pas une grande importance. Quant aux élèves, il y en a qui avaient 15 ans, 16 ans. Ils avaient une directrice d'école qui avait 35 ans, qui était très jolie femme. Il y en a sûrement qui étaient amoureux d'elle, qui lui mettaient des petits billets comme ça se passait à l'époque. Mais je crois que ça n'était aucunement un souci pour elle. Ça vraiment, et puis ça a dû se passer très vite.
J'ai couru dans la nuit vers une humble chaumière, j'ai couru dans la nuit de printemps. Vers le seuil où tremblait une faible lumière de la porte, j'ai poussé le battant. Et c'est là que, madame, je vous ai vu sourire, endormie dans un rêve si léger, qu'à mon tour,
j'ai cru bon de rêver pour vous dire ces mots qui voltigeaient. Bonsoir, jolie madame, je suis venu vous dire bonsoir. Tout simplement, je ne réclame qu'un peu d'espoir. Espoir d'une visite, reviendrez-vous, tout vous attend dans ma maison. Revenez vite, c'est le printemps. Demain, par la fenêtre ouverte, la rivière vous fera les doux yeux. Demain, la nature est offerte au soleil qui luit dans vos cheveux. Bonsoir, jolie madame, reviendrez-vous au rendez-vous où le printemps vous met dans l'âme un désir fou. Par la fenêtre ouverte, la rivière vous fera les doux yeux. Demain, la nature est offerte au soleil qui luit dans vos cheveux. Bonsoir, jolie madame, reviendrez-vous au rendez-vous où le printemps vous met dans l'âme un désir fou.
Les personnages sont peu caricaturaux, ils ne sont pas tout le bien ou tout le mal, comme le maire M. Dunois qui hésite, ou l'officier allemand qui s'inquiète des jeunes juifs et évoque le pianiste allemand aux mains fracassées. Est-ce une image de ce que vous croyez qu'a été la France par rapport aux juifs persécutés ?
Écoutez, je crois que c'est une image de ce qu'a été la France. J'enlèverai par rapport aux juifs persécutés, parce que c'est un autre problème. Mais la France, je pense, à cette époque, mais enfin bon, vous savez, il faut prendre beaucoup de précautions quand on parle de ça. Il ne faut surtout pas généraliser, mais parce que d'abord, on n'y est plus. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement différent. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut être très nuancé, parce que la situation était beaucoup complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu dire ensuite. On revient maintenant, en ce moment, quand on parle de cette époque, on revient à considérer que c'était plus complexe, qu'il y avait des nuances. Et puis, il y a de tout dans le monde, il y a de tout dans n'importe... Regardez toutes les guerres qu'il y a partout en ce moment, il y a de tout. Il y avait... Moi, j'ai consulté des dossiers. J'ai consulté la presse de l'époque. Bon, évidemment qu'il y avait des... Et j'avais un cousin qui était résistant. Évidemment, il y avait des résistants qui risquaient leur vie, qui ont résisté très tôt. Il y en a d'autres qui ont commencé à résister plus tard. Il y en a qui ont commencé à résister quand le vent a tourné en Russie. Il y a tout. Et puis, il y avait beaucoup de délation. Il y a des gens qui aussitôt, comme dans toutes ces circonstances-là, en profitent pour régler leur petit compte personnel. C'est des choses les plus pénibles, c'est de relire. C'est dans les archives maintenant, vous pouvez aller voir les dossiers où on a gardé les lettres de délation. Pas seulement pour un endroit précis, mais il y avait des centaines de délations. Soit pour s'approprier, on disait celui-là il est juif, il va s'en aller, je prendrai son appartement. Bon, ça c'est, je dirais, c'est la base de la délation. Ou bien il a gagné trop d'argent, ou bien pour régler des comptes. Ou bien accuser les gens. Ça a été très, très... C'était la période la plus sombre. C'est l'aspect le plus sombre de cette époque, pour moi. c'est le côté mesquin, petit, la délation, la guerre n'est pas une partie de plaisir, l'occupation encore moins. Il fallait bien voir que il faut avoir aujourd'hui une vision aussi nuancée et complexe. Il faut essayer de voir, comprendre ne veut pas dire excuser, pas du tout. Alors, par rapport aux Juifs, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu un autre problème, parce que ça dépend si vous êtes à Paris, si vous êtes dans une grande ville, si vous êtes à la campagne. Là où j'ai mis mon roman, c'est-à-dire une petite ville de 10 000 habitants, disons, dans la campagne française, les Juifs en 39-40, on ne savait pas trop. C'était parisien. Quand les enfants juifs arrivaient, on disait c'est des Parisiens. Personne ne disait jamais c'est des Juifs. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'était. Ça paraît incroyable, parce que vous le savez maintenant. C'est pas qu'ils ne savaient pas ce que c'était, mais enfin, les Juifs, les francs-maçons, tout ça, c'était vague. Et puis, c'était pas la vie quotidienne des gens. C'était surtout à Paris qu'il y avait ce genre de problème. Alors, les réactions ont été différentes, mais je vous dis une chose quand même qui m'a frappée, c'est qu'il n'y a pas eu de délation des enfants, nulle part. Ce qui veut dire que en même temps, ça les a sauvés. En même temps, il y a des gens qui ont fait ça, non pas parce qu'ils étaient juifs, mais parce que c'était des enfants. Il fallait sauver des enfants. Juifs, pas juifs, un orphelin qui aurait été là, qui n'était pas juif, il était sauvé comme les autres. Alors, ce n'était pas général, mais ça existait aussi. On ne peut pas porter comme ça un jugement général sur cette période, parce que ça dépend tellement des endroits, des moments aussi. Pendant la guerre, ça a beaucoup changé. 39, 40, 41, ça, c'est devenu beaucoup plus dur à partir de 42, quand il y a eu la zone libre, quand il y a eu la Russie surtout, et le début de la défaite allemande en Russie. Là, ça s'est tendu, il y a eu des massacres, Oradour-sur-Glane, tout ça. C'est arrivé à la fin de la guerre en 44. Et donc, il faut, si vous voulez, Et pour les Juifs en particulier, je vous dis, il y a des gens qui en ont sauvé, il y en a d'autres qui les ont dénoncés, ça dépend où. Et en même temps, le problème est apparu dans toute sa grandeur, dans toute sa dimension et sa cruauté, en fait, après le retour des déportés en 45 à l'hôtel du Tessien. C'est là que les gens ont vu arriver des gens en pyjama rayé et qu'ils ont découvert la déportation. Ils n'ont pas découvert avant 45. Il ne faut pas juger une époque avec les sentiments de 5 ans ou 10 ans après.
J'avais été allemand. Bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance, nourri de rêves de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent. Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir ton humain. Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le vent. j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps. D'avoir à choisir un camp.
Cette émission consacrée à la Shoah en Sarthe a été réalisée par les lycéens de première L du lycée Paul Scarron de Ciel-Guillaume dans le cadre de l'option radio et en collaboration avec les enseignants de lettres et d'histoire. Nous remercions pour leur initiative et leur soutien la Fondation pour la mémoire de la Shoah et le Mémorial de la Shoah à Paris, ainsi que la région des Pays de la Loire dans le cadre de son programme d'action éducative sur l'éducation à la tolérance et à la paix. Nos remerciements particuliers à Charles Zelti, Alban Perrin, Charlotte Le Provost, à Franck Pohu et Jacques Chénier, à nos confrères du lycée sud de la classe de Madame Bodineau, et notre très grande reconnaissance à Monsieur Henri Joannovici, Madame Josette Alia et Madame Simone Veil pour nous avoir reçus. Cette série radiophonique est une production fréquenciée 97.9 en Pays de Haute-Sarthe.